Chapitre 12. Révélation inattendue. Il me tardait, dit Quaterkem, d'être seul avec toi. Qu'as donc tu pu faire aux Anglais pour exciter leur bile à ce point? Partout où je vais, leurs journaux te traitent comme un successeur de Cartouche et de Mandrin. Leurs espions surveillent tes actions. Leurs soldats vont marcher contre toi. Ce matin, en passant au-dessus de Bombay, j'ai vu des préparatifs immenses. Les canons se comptaient par centaines, les voitures de toute espèce par dizaines de mille. Et, ce qui est plus significatif encore, l'armée qu'on réunit contre toi n'est composée, sauf sept régiments Six et Gorkas, que de troupes européennes, c'est-à-dire l'élite de l'armée anglo-indienne. Assurément, je n'ai pas de passion pour ce peuple orgueilleux et renfrogné. Mais il faut se supporter entre voisins. Tiens, permets-moi de me citer pour exemple. J'avais autrefois, rue Mazarine, un portier de la pire espèce, bourru, grognon, malfaisant. Passé 10 heures du soir, il fermait sa... c'est-à-dire ma porte. Il ne l'ouvrait pas avant 7 heures du matin. Dans l'intervalle, s'il m'arrivait d'aller au spectacle ou de m'attarder dans les rues, j'étais forcé de coucher chez mes amis. Et un soir moins heureux, j'ai couché au violon. « Mon ami, interrompit Corcoran, tu termineras demain l'histoire de ton portier. Écoute les choses sérieuses que je veux te dire, et qui t'expliqueront la haine des Anglais. Tu sais... où tu dois savoir que je suis arrivé à l'Empire, comme Saoul, fils de Kis, qui cherchait des ânesses et qui trouva un royaume. Mes ânesses, à moi, c'était le fameux manuscrit du Guru Karamta, soupçonné par Wilson, signé par Colebrook, inutilement cherché par 20 orientalistes anglais. Sur la route, j'ai rencontré Holkar, j'ai sauvé sa fille et son royaume. Jusque-là, rien que de fort ordinaire. Mais voici un secret que je n'ai encore dit à personne, secret terrible. Secret redoutable qui peut me coûter la vie ou me donner le plus beau trône de l'Asie. C'est Holkar mourant qui me l'a confié, en me faisant jurer que je vengerai sa mort. Au temps où Bonaparte, général en chef de l'armée d'Égypte, méditait sa conquête de l'Inde, il fit alliance avec Tipu Sahib, sultan de Mysore. Celui-ci crut qu'il allait être secouru par la France, ce qui précipita sa perte. Les Anglais, avertis par leurs espions, se hâtèrent de l'attaquer dans Seringapatam, sa capitale. Il fut tué pendant l'assaut. Tipu Sahib, quoique musulman, était d'un esprit fort et mettait toutes les religions au service de sa politique. Il avait eu l'adresse de créer une immense société secrète qui s'étendait dans tout l'Hindoustan et qui regardait l'extermination des Anglais comme une œuvre divine. Sa mort arrêta une révolte générale qui était près d'éclater et pendant quelques années, l'association dont il était l'âme parut dissoute. Mais un de ses serviteurs fidèles, qui voulait le venger, révéla le secret au père d'Holkar, qui dès lors devint le chef réel et l'espoir des hindous. Les Anglais, toujours sur leur garde, devinèrent ses desseins et l'attaquèrent avant qu'il fût prêt, au moment où il allait conclure une alliance avec le fameux Runjit Singh, qui devait les aborder par le nord-est, pendant qu'il ferait révolter le centre et le sud de l'Inde. Le grand malheur de ce pauvre pays, c'est que, grâce à la variété des races et des religions, qui se détestent mutuellement, on trouve facilement des traîtres. Holkar trahi fut vaincu et tué avec 2 de ses fils. Runjit Singh reçut 10 millions de roupies pour rester neutre. Mais les hindous, indignés, ne voulurent pas reconnaître d'autre chef que le jeune Holkar, 3e fils du défunt. Et les Anglais, contents de ce premier succès, n'osèrent pas pousser leur ennemi au désespoir. On lui prit la moitié de ses états, 50 millions de roupies, et on lui donna pour surveillant le colonel Barclay, celui qui vient de se signaler dans la révolte des Sipayes, et qu'on a fait major général. « Oui, dit Quaterkem, et la révolte a éclaté, et les Sipayes ont été pendus, et Holkar a été tué, comme l'avait été avant lui son père et Tipu Sahib. Et toi, Corcoran, natif de Saint-Malo, tu vas te faire trahir et tuer comme tes prédécesseurs. Mon ami, tu es fou. Viens dans mon île, il y a de la place pour 2. Nous y vivrons tranquillement, en jouant aux quilles en été et au billard en hiver. » Ce qui est le vrai but de la vie. Et si mon île te déplaît, j'en ai découvert une autre dans le voisinage, presque aussi inaccessible et aussi belle que la mienne. Je te l'offre. Corcoran regarda quelque temps son ami sans rien dire. Puis il haussa doucement les épaules. Mon cher Quaterkem, quand je serai certain d'échouer et d'être fusillé dans 10 jours, je n'en ferai pas moins ce que je fais. Mais ne me prends pas pour un rêveur. Connais-tu cet autographe? C'est la signature de Napoléon lui-même? S'écria Quaterkem étonné. Lis maintenant le titre de ce manuscrit. Liste des étapes de l'armée française de Strasbourg à Calcutta par voie de terre, écrite sous la dictée de Sa Majesté Napoléon Ier, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération helvétique et signé de la propre main de Sa Majesté. Paris, 15 avril 1812. Cette note, mon ami, est écrite de la main de M. Daru, intendant général de l'armée. Les agents de Napoléon, Lascaris, entre autres, qui parcourait la Syrie et le désert sous le nom de Cheikh Ibrahim, avait d'avance éclairé la route et préparé les peuples à de grands événements dans les vastes plaines de la Mésopotamie, chez les Wahhabites, dans les montagnes de la Perse, du Khorassan et du Mazandéran. On savait que l'invincible sultan Bounaberdi, le bras droit d'Allah, allait jeter les Anglais à la mer, et tout le monde était prêt à lui fournir des vivres, des bêtes de somme, et même des renforts, soit par obéissance au décret d'Allah, soit par la haine contre les Anglais. Car il faut leur rendre cette justice, que s'ils cessaient un instant d'être les plus forts dans l'Inde, on les hacherait menus comme une chair à pâté. Voici en résumé quel était le plan de Napoléon, dont une copie fut remise au père d'Holkar par un agent secret qui traversa toute l'Inde déguisé en fakir. Napoléon, partant de Dresde, alla rejoindre son armée dans le Niémen. De là, pénétrant en Lituanie, il coupait en deux et prenait la grande armée russe. Il s'en fallut de quelques heures de marche, comme tu sais, que ce plan ne réussit. Ce qui aurait mis Pétersbourg, Moscou et le tsar même à la discrétion de Napoléon. Ce premier point obtenu, le reste était facile. Le tsar rendait sa part de Pologne et l'Autriche à la Galicie. La Pologne entière, remise sur ses pieds, montait à cheval pour suivre Napoléon. Mais ne crois pas qu'on laisse le tsar sans compensation. Tu vas voir quel présent on lui faisait. La Chine. Tu ouvres de grands yeux, mon ami, rien n'était plus facile. La Chine est à qui veut la prendre. C'est un grand corps sans âme. J'ai vu et je sais des choses. J'ai des projets pour l'avenir. Napoléon avait fort bien discerné, malgré la distance, qu'un empire immense où tout est classé, étiqueté, paraphé, enregistré, où toutes les actions de la vie sont prévues et à toute heure du jour employées par les rites, où 100 000 tartares à cheval montent la garde autour du souverain et suffisent pour épouvanter 350 millions d'hommes. Napoléon, dis-je, savait bien qu'un tel empire est la proie du premier venu. C'est pourquoi il offrait la moitié à son compère Alexandre, et la moitié seulement, et encore était-ce le nord de l'Empire, qui est froid et rempli de steppes. Sans le dire, il se réservait le reste, c'est-à-dire tout ce qui est au sud du fleuve Huanghe. À la Chine méridionale, il ajoutait la Cochinchine et l'Inde, de façon que tout le continent de l'Asie eût été partagé entre ses deux maîtres, Alexandre et Napoléon. Naturellement, les Turcs, étant sur son passage, auraient été les premiers sacrifiés. Pour apaiser l'Autriche qui devenait vassale et surtout pour l'opposer à la Russie, on lui faisait aussi sa part, qui était la vallée du Danube, de la source à son embouchure. Puis Napoléon, entraînant sur ses pas la cavalerie hongroise et polonaise, entrait dans Constantinople comme dans un moulin. Tu sais qu'il a rêvé toute sa vie d'être empereur de Constantinople. C'est ce qui l'a brouillé avec le tsar, qui faisait juste le même rêve. Il avait déjà la France et l'Italie, par son frère Joseph il espérait avoir l'Espagne, Tanger, Oran, Alger et Tripoli n'auraient fait qu'une bouchée. L'Égypte l'attendait. Le connaissant déjà, et l'isthme de Suez que M. Lesseps perce aujourd'hui avec tant de peine, eût été coupé en 6 mois. Déjà, ses ingénieurs avaient retrouvé les traces d'un vieux canal maintenant ensablé, et qui date sans doute du feu roi Sésostris. Enfin, de gré ou de force, la mer Méditerranée était à lui, et du haut de Gibraltar, les Anglais auraient vu passer ses flottes sans pouvoir les arrêter au passage.
Qui t'a révélé ces beaux projets de Napoléon ? Demanda Quaterkem. Et de qui tiens-tu ces confidences qu'il n'a sans doute faites à personne ?
Me prends-tu pour un romancier ? Répliqua le Maharaja. T'imagines-tu que je m'amuserais à prêter à ce grand homme des idées de mon cru ? Sache d'abord que Napoléon a toujours été fort mal connu jusqu'ici. Cet homme qu'on a toujours cru si positif n'était au fond qu'un grand poète et un mathématicien distingué. Comme poète, il avait des fantaisies sans limite. Comme mathématicien, il enveloppait ses fantaisies d'une apparence de précision et de calcul qui éblouissait le sens commun des imbéciles.
Tu as probablement raison, dit Quaterkem. Mais encore une fois, qui t'a révélé les projets de Napoléon ?
Lui-même, mon cher ami, oui, lui-même.
car outre la note que tu viens de voir et qui fut écrite par Daru sous la dictée du maître, il en est une plus complète encore et plus secrète pour laquelle il n'a pas voulu emprunter la main d'un secrétaire. Tiens, lis toi-même. Voici la dépêche à Lascaris, son seul confident. Monsieur de Lamartine, mal informé, a cru que les Anglais avaient saisi les papiers de Lascaris au Caire après sa mort. C'est le consul anglais qui répandit ce bruit à dessein pour arrêter les recherches, mais ces papiers précieux existent encore. Les voici. Lascaris, mourant, avait chargé un ami de les porter au gouvernement français. Mais cet ami, se voyant surveillé et craignant les pièges de Mehemet Ali, alors pacha d'Égypte, s'enfuit à Suez, s'embarqua sur un bateau ponté, et ne sachant à qui confier ce précieux dépôt, fit voile vers l'Inde et le remit aux mains d'Holkar lui-même. La dépêche de Napoléon est si claire, si ferme, si précise, a si bien prévu tous les incidents qui pourraient survenir qu'on le reconnaîtrait hostile, quand la signature et l'écriture n'indiqueraient pas le véritable auteur. Mais quel usage veux-tu faire des plans de Napoléon? Les exécuter, mon cher ami. As-tu comme lui 1 200 000 hommes à ta disposition? J'ai l'Inde, qui semble assoupie mais qui veille comme un boa constricteur, nonchalamment étendue au soleil et prête à se jeter sur sa proie. Songe que je suis aux yeux de ces pauvres gens la 11e incarnation de Vishnu. Depuis 2 ans, des milliers de brahmines et de fakirs de toute espèce annonce sous-main aux hindous que Vishnu lui-même s'est incarné pour les délivrer. On fait sur moi des légendes. On dit, et je laisse croire, car il n'y a rien de plus utile que les balles s'aplatissent et que les arbres s'émoussent en me touchant. 2 ou 3 affaires où j'ai payé de ma personne et dont je me suis tiré avec bonheur m'ont fait une réputation incroyable. Tu trouveras dans Bhagavapur 100 personnes qui jurent m'avoir vu, de leurs yeux vu, jeter des flammes par la bouche et brûler le camp des Anglais. D'autres m'ont vu mettre en fuite à coups de cravache toute la cavalerie anglaise. Plus ces histoires sont absurdes, plus on s'empresse d'y croire. Ces pauvres hindous en quête d'un héros et d'un vengeur se sont précipités sur moi. Enfin, si les Anglais avaient attendu encore 3 ou 4 ans, leur ruine était certaine, car toute l'Inde aurait été en armes et sous mes ordres. Oui, mais ils connaissent tes desseins, et ils vont te prévenir. Tu as vu la lettre de ce coquin de Doubleface? Celui-là, au moins, paiera pour tous, dit Corcoran. Demain matin, après déjeuner, je te promets un spectacle amusant.